des proverbes. Ce qu'on a vu, c'est que dans la vie, il y a toutes sortes d'expériences qui arrivent et qu'on peut accéder à une certaine forme de sagesse à travers l'écoute des gens plus expérimentés que nous, le fait d'acquérir de l'expérience nous-mêmes. On acquiert une certaine forme de sagesse, mais jamais cette sagesse-là ne sera aussi grande que lorsqu'on connecte avec l'être sage par-dessus tout. Donc, évidemment, on a vu que Dieu personnifie le principe même de la sagesse. Et ce qu'on a vu d'une certaine façon, c'est qu'on ne peut pas accéder à la sagesse en excluant Dieu de l'équation de nos vies. Et ce qu'on va voir ce matin, c'est un principe, je pense qu'on vit tout le monde un peu partout dans nos vies. Peut-être que vous avez déjà remarqué, j'en suis convaincu, que dans le monde dans lequel on vit, avez-vous déjà remarqué qu'on vit dans un monde troublé, où les relations sont parfois extrêmement enrichissantes, notamment les uns avec les autres. Hier, c'était notre première rencontre de petit groupe qu'on vient tout juste de créer dans notre quartier. Et on a tellement eu de bonnes relations les uns avec les autres. C'était fun d'être ensemble, de pouvoir partager différentes choses. Il y avait 15 enfants dans notre groupe. On était 26 au total, donc plus de la moitié du groupe, c'était des enfants, tout en bas de 10 ans. Il y avait de l'action. Donc, c'était le fun d'être ensemble, mais en même temps, c'était un peu plus compliqué parce qu'il y avait des petites choses à régler avec les enfants. Somme toute, ça a super bien été. Mais tout ça pour dire que vivre ensemble, parfois, c'est extrêmement enrichissant, mais c'est aussi très compliqué. Et parfois, on est à la recherche de la sagesse. Comment est-ce que je peux, dans ma relation avec les gens qui m'entourent, avec le monde qui m'entoure, vivre dans la sagesse? Qu'est-ce que Jésus nous dit à ce sujet-là? Et comment est-ce que je peux, à travers le livre des Proverbes, tirer des principes qui m'aident à acquérir une certaine forme de sagesse à laquelle l'Évangile me stimule, veut me conduire? Et ce matin, on va commencer avec un texte, pas dans le livre des Proverbes, même si on examine le livre des Proverbes ensemble. Ce matin, j'ai décidé de lire un passage dans l'Évangile de Matthieu, juste pour mettre la table, et après ça, on va voir des exemples pratiques dans le livre des Proverbes. Donc ce matin, je vous invite à tourner avec moi dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 22. On va voir ce que Jésus pense au niveau de la sagesse. Qu'est-ce qu'il est sage de faire dans ma relation avec le monde qui m'entoure, avec les gens qui vivent autour de moi? Et je vais laisser ma sœur Camille nous lire ce passage de Matthieu, chapitre 22.
Donc, on commence au verset 34, et c'est dans l'édition, nouvelle édition de Genève. Donc, Matthieu, chapitre 22, versets 34 à 40. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. »
Merci Camille. C'est un passage que probablement beaucoup d'entre vous connaissez, que vous avez vu, lu probablement des dizaines, peut-être même des centaines de fois pour certains d'entre vous. Ce qu'on voit ici dans le passage qu'on vient de lire de Matthieu, c'est que Jésus nous donne la clé de la sagesse. Il y a un spécialiste de la loi, un spécialiste supposément de la sagesse de Dieu qui était inscrite dans sa loi, qui s'approche de lui et qui lui dit, « Jésus, quel est le plus grand de tes commandements? » C'est quoi le commandement qui est le plus sage? S'il y en avait un seul à retenir dans toute la gang, quel est le plus important? Lequel je devrais m'attacher de manière primordiale et radicale? Et si on veut résumer la pensée de Jésus ici, on pourrait dire la chose suivante, c'est que si la sagesse que Dieu donne est liée à la manière dont nous sommes attachés à lui, eh bien cela ne peut se manifester que dans mes relations avec les autres, que lorsque j'aime mon prochain comme moi-même. Autrement dit, la manière de vivre la sagesse dans mon rapport avec autrui, c'est de l'aimer comme je m'aime moi. C'est intéressant ici, Jésus répond à la question du spécialiste de la loi qui vient vers lui, mais le spécialiste lui a demandé quel est le plus grand commandement, puis Jésus, sa réponse est double. C'est comme si les deux commandements allaient de pair, puis qu'on ne pouvait pas aller l'un sans l'autre. Je ne peux pas m'attacher à Dieu et l'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée, sans aimer mon prochain comme moi-même. Les deux sont indissociables. Et Jésus ici le démontre de manière assez claire. Je ne peux pas dire « j'aime Dieu, mais je suis indifférent à mon voisin. » Je ne peux pas dire « j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute ma pensée, puis haïr mon patron. » Je ne peux pas aimer Dieu et dire à la fois « je suis insensible aux besoins de ma femme ou de mes enfants ou de mon père ou de ma mère. » Les deux vont ensemble, l'un produit l'autre. Et d'une certaine manière, on pourrait se poser comme question, qu'est-ce que ça signifie exactement aimer mon prochain comme moi-même? Jésus ici explique que la clé de la sagesse dans mon rapport avec l'autre, avec autrui, c'est de l'aimer comme je m'aime moi. Mais comment est-ce que je m'aime moi? Qu'est-ce que le livre des Proverbes nous dit à ce sujet-là sur l'amour du prochain, sur le fait d'aimer l'autre comme soi-même? Eh bien, la première chose que le livre des Proverbes nous dit, c'est que aimer mon prochain repose tout d'abord sur le fait d'agir en fonction de vouloir son bien. Lorsque j'aime quelqu'un comme moi-même, ça veut dire à la base que je désire du bien pour cette personne-là. Et dans le livre des Proverbes, on voit à plusieurs reprises que la sagesse, d'une certaine manière, dans ma relation avec les autres, c'est toujours lié à des choses que je fais pour quelqu'un d'autre, ma manière d'agir envers eux. Regardez, par exemple, certains passages toujours tirés de la Bible français courant. Dans le livre des Proverbes, je trouve que la version français courant rend le français un peu plus... comment je pourrais vous dire ça? Dans la manière que c'est composé, c'est un peu plus actuel. C'est moins austère un petit peu, je trouve. C'est intéressant de voir cette version-là. Donc, voici quelques passages qui nous démontrent que aimer son prochain, c'est agir en fonction de son bien. Donc, je vais vous les lire. « Ne projette pas de faire du mal à ton ami alors qu'il vit près de toi avec confiance. Ne te querelle pas sans motif avec quelqu'un qui ne t'a rien fait. Je veux son bien. Un ami montre son affection en toutes circonstances. Un frère est là pour partager les difficultés. Je veux son bien. Ne te lie pas à quelqu'un d'irritable et fuis la compagnie de l'homme agressif, sinon tu te mettras à imiter leur comportement. Ne te réjouis pas lorsque ton ennemi tombe. Ne saute pas de joie lorsqu'il succombe sous le malheur. Le Seigneur verrait cela d'un mauvais œil et il détournerait sa colère de ton ennemi. Pour aller où? Si tu as un différend avec ton voisin, règle-le avec lui, mais ne révèle pas ce qu'un autre a pu te confier, sinon quelqu'un peut t'entendre te le reprocher et tu ne pourras plus revenir sur ton indiscrétion. » Ce qu'on voit ici à travers ces versets-là tirés du livre des Proverbes, c'est que quelqu'un qui agit sagement dans ses relations avec les autres, ce n'est pas quelqu'un qui se contente de se mêler de ses affaires. Vivre sagement avec les autres, ce n'est pas quelqu'un qui se mêle juste, qui s'occupe juste de ses oignons. Ce n'est pas juste quelqu'un qui laisse l'autre tranquille. Parfois, oui, ça peut être sage de laisser l'autre tranquille. Mais en général, le livre des Proverbes nous invite plutôt à un geste beaucoup plus généreux de notre part. Et ce qu'on pourrait dire, c'est que aimer l'autre comme soi-même, eh bien, c'est témoigner envers l'autre d'une bonté qui est désarmante. Si je veux aimer quelqu'un comme moi-même, comme nous l'invite Jésus à faire par la grâce de l'Évangile, c'est de faire preuve de bonté envers elle. Si je vous demandais la question, vous personnellement, de quelle manière est-ce que vous vous aimez? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne s'aiment pas? Je pense que quelque part dans nos vies, on apprécie tous les êtres qu'on est, hein, d'une certaine manière. Sinon, on ne serait pas loin de quelque chose qui serait assez dramatique. Tous les êtres humains, à la base, s'aiment. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'il y a des choses dans vos vies que vous n'aimez pas? Des choses que parfois vous trouvez détestables? Des choses que vous haïssez? des choses que vous trouvez abominables en vous, que vous aimeriez que ces choses-là ne vous appartiennent pas, mais que ce soit plutôt quelqu'un d'autre qui les ait plutôt que vous. Est-ce que le fait d'être parfois, d'avoir parfois honte de qui on est, ça vous empêche de vous aimer? Pas du tout. Même s'il y a des choses dans ma vie que je n'aime pas, je vais continuer à prendre soin de ma propre personne parce que j'aime qui je suis. J'ai une certaine affection envers qui je suis. Eh bien, c'est la même chose en ce qui concerne l'autre. Aimer l'autre comme soi-même, ce n'est pas éprouver nécessairement de l'affection pour quelqu'un qui n'est pas aimable. Vous avez déjà rencontré des gens qui ne sont pas aimables? Des gens qui sont hypocrites, des gens qui sont vengeurs, des gens qui sont profondément méchants ou cruels. Est-ce que je peux aimer ces gens-là comme moi-même? Jésus nous dit que oui. Si je suis racheté par la grâce de l'Évangile, j'ai le pouvoir d'aimer ces gens-là comme moi-même. Mais aimer ces gens-là comme moi-même, ça ne veut pas dire, OK, je te trouve aimable. Même si ce que tu fais, ce n'est pas aimable, ben moi, je trouve ça aimable. Non, ça n'a pas de sens. Il faut appeler un chat. Ce qui n'est pas aimable, ce n'est pas aimable. Aimer quelqu'un comme moi-même, ce n'est pas trouver quelqu'un d'aimable alors qu'il ne l'est pas. Vous me suivez bien? Alors, le point où est-ce que j'aimerais en venir avec vous, c'est qu'il faut plutôt voir ça dans la tendance inverse. Parce que je m'aime et j'ai une certaine appréciation de qui je suis, je pense que je peux faire du bien. Parce que j'ai un certain amour envers ma propre personne, je suis capable de faire du bien. Mais ce que je fais ne définit pas mon amour que j'ai pour moi-même, parce que souvent j'ai honte de ce que je fais. Donc à ce moment-là, je ne peux pas m'aimer. Alors, d'une certaine manière, l'amour que j'ai pour moi va créer certaines choses bonnes. Et c'est là le vrai test de l'amour envers l'autre, c'est-à-dire essayer d'éprouver pour l'autre les sentiments que j'éprouve envers moi-même. C'est-à-dire que parce que je fais des choses qui sont parfois pas aimables, bien je peux quand même m'aimer. Bien mon sentiment vers l'autre est pareil. C'est pas parce que l'autre fait quelque chose qui est pas aimable que je ne peux pas l'aimer. Ça n'a rien à voir avec l'affection. L'amour dont Jésus parle ici dans le fait de s'aimer comme soi-même le prochain, ça va plus loin que ça. C.S. Lewis, le philosophe chrétien, a déjà dit ceci. Ne vous tracassez pas de savoir si vous aimez votre prochain, mais agissez comme si vous l'aimiez. Lorsque vous vous conduisez envers quelqu'un comme si vous l'aimiez, comme si vous l'aimiez, vous en arriverez tôt ou tard à l'aimer vraiment. Est-ce qu'il y a de l'affection ici? Est-ce qu'il y a des atomes crochus envers quelqu'un? Non. Ce que l'amour du prochain nous dit ici, c'est que notre amour envers l'autre ne dépend pas si j'ai les mêmes intérêts que l'autre, si elle est aimable ou non. Ce que C.S. Lewis et Jésus, d'une certaine manière, nous dit, c'est si la personne est devant toi et a fait quelque chose d'aimable, agis envers elle comme si tu l'avais toujours aimée. Même si tu ne la connais pas, même si tu ne connais rien de sa vie, même si elle n'est pas aimable avec toi, le défi de l'Évangile, c'est aime ton prochain comme s'il était aimable, alors qu'il ne l'est peut-être pas. Je vous donne un exemple pratique de ce que peut créer cette dynamique-là en termes de sagesse. Il y a de cela quelques semaines, vous le savez, je suis déménagé à Longueuil. Donc, je suis parti de Montréal, je suis arrivé dans la ville de Longueuil. Charlot, mon frère, il me dit « Hey Miguel, maintenant tu habites dans la plus belle ville du Québec. » Je dis, pardon, du Québec? Non, non, du monde entier. Longueuil, c'est une ville incroyable. Dieu m'a vraiment béni dans me mettant dans cette ville-là. C'est incroyable. Écoutez, c'est pas mêlant. En l'espace de, mettons, 5 minutes à pied, je peux aller au restaurant, je peux aller à l'épicerie, je peux aller au dépanneur, je peux aller à la pharmacie, je peux aller à la piscine, je peux aller jouer au tennis, je peux aller jouer au basket avec mon petit garçon. Je peux tout faire. C'est pas mêlant. Même la piste cyclable passe juste devant ma maison. Dieu m'a vraiment, écoute, c'est comme s'il avait créé cette maison-là pour moi et ma famille. C'est vraiment une grâce. C'est extraordinaire. Et quand je suis déménagé, la journée où je suis déménagé, je suis arrivé avec le camion. Et ce que je voulais, c'est amener la plateforme le plus près possible de la porte d'entrée pour pouvoir faciliter le déménagement. Vous comprenez? Donc, il a fallu que je donne une certaine inclinaison au camion. Et en donnant l'inclinaison au camion, j'ai vraiment détruit une partie du gazon de mon voisin. Comprenez-vous, moi, là, tu sais, je viens à Longueuil pour être un témoin actif de la grâce de Dieu. Puis c'est comme, là, non, je suis juste un bulldozer qui détruit tout sur son passage, tu sais. Bon, OK. Puis je m'en voulais vraiment, là, tu sais, dans le sens que mon voisin, je le connais pas. Tu sais, puis là, le premier contact qu'il y a, ben, disons que j'aurais rêvé d'un meilleur contact avec lui. Fait que là, finalement, je vais m'excuser auprès du voisin qui est unilingue anglophone, donc on essaye d'arranger ça. Je dis, écoutez, faites-vous-en pas, là, je vais aller remplacer le morceau. Donc, je vais acheter de la tourbe, j'arrange ça tranquillement. Puis, je suis content du travail que j'ai fait. J'aurais pu laisser ça là puis dire, bien, qu'il s'arrange avec ses affaires. Non, je veux lui faire du bien, comprenez-vous. Fait que je vais remplacer le morceau de gazon, en achetant de la tourbe. Donc, ma job est faite, comprenez-vous? Moi, dans ma tête, je dis, OK, j'ai aimé mon voisin comme moi-même. Mais là, 2-3 jours après, ce que je m'aperçois, c'est qu'il fait chaud. Puis que la tourbe, disons, qu'elle est plus jaune que verte. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Fait que là, tu sais, j'aurais pu dire, bien, écoute, j'ai remplacé le morceau de tourbe. Lui, là, qui s'arrange avec ses problèmes maintenant? J'ai fait ce que j'avais à faire. Je m'en lave les mains. Non, non, moi, je veux du bien à cet homme-là. Je le connais pas, mais je lui veux du bien, comprenez-vous? Fait que je me procure un petit gicleur, puis je commence à l'arroser, la petite tourbe, le matin de bonne heure, puis le soir, tu sais, pour que le gazon reprenne un peu de force. Puis finalement, ça fonctionne. Le gazon redevient vert. Fait que moi, je suis content. Tu sais, dans le sens que j'ai donné, la grâce de Dieu m'a permis juste de donner un petit plus à cet homme-là que je ne connais pas du tout. 2 jours après, la dame qui reste dans la maison, elle cogne à notre porte, puis elle nous dit en anglais, elle dit, écoutez, je n'ai pas dormi la nuit passée. Comment ça, je n'ai pas dormi la nuit passée? Putain, on était tranquilles, les enfants étaient tranquilles. Dit, comment ça qu'elle n'a pas dormi? Elle dit, écoutez, il dit, je n'en reviens pas de ce que vous faites pour nous. Jamais il y a quelqu'un qui a voulu notre bien comme ça. Puis elle, ça la troublait de voir juste quelqu'un qui prenne soin d'un petit morceau de gazon, que c'est moi qui étais responsable, c'était comme juste moi qui étais supposé de s'en occuper, mais elle n'en revenait pas. Dieu a vraiment pris un soin particulier à ce que dans sa sagesse, je détruise ce morceau de terrain-là pour que je puisse avoir un accès à la vie de ce couple-là, puis juste leur faire du bien. Maintenant, là, puis là, priez pour moi, parce que moi, mon anglais, il est assez approximatif, mais qu'à un moment donné, comprenez-vous à quel point ça peut faire une différence maintenant quand je vais lui parler de l'Évangile, puis je vais lui parler de Jésus, de cet être-là qui a mis dans mon cœur cet amour-là pour les autres, que ça ne vient pas de moi, mais ça vient d'une vie que la croix de Jésus-Christ a créée dans ma vie par sa résurrection. Et comprenez-vous que l'espace que ça va ouvrir pour discuter, c'est incroyable. Ça m'a. Quelqu'un qui est venu sonner à ma porte, c'est comme ça m'a bouleversé, qu'elle me rende ce témoignage-là. D'une certaine manière, c'est pas mon affection pour mon voisin qui m'a poussé à lui faire du bien. Moi, je ne le connais pas, mon voisin. J'ignore son nom, j'ignore d'où il vient, j'ignore toute sa vie. Mais même si je n'ai pas d'atome crochu avec cette personne-là, Dieu m'a permis, quand même, dans sa grâce infinie, juste de lui faire du bien, de l'aimer comme je m'aimerais moi-même. Puis comme je désire du bien envers ma propre vie, bien, aimer l'autre comme soi-même, c'est lui désirer du bien comme moi-même je désire du bien pour ma vie. Vous me suivez là-dessus? Premier point, comment je peux aimer mon voisin comme moi-même? Fais tout ce que tu peux pour lui faire du bien, autant que tu en désires pour ta vie. Voilà comment tu peux vivre sagement aux yeux de Dieu face à tes contacts avec le prochain. C'est un peu comme si on agissait, comme si on ressentait déjà cet amour-là, alors qu'il n'y a rien au monde qui pourrait peut-être nous associer. Je ressens déjà un amour qui tant ne demande qu'à être construit, mais je n'attends pas d'être aimé ou que la personne soit aimable pour l'aimer. Je l'aime avant même qu'elle devienne aimable. Voilà le défi de l'Évangile. Évidemment, quand on regarde ça avec cette lunette-là, c'est un peu une manière de regarder les autres un peu spéciale. Puis il y a peut-être des gens autour de vous qui vont vous trouver vraiment space, Vous allez faire ça, là, puis les gens autour de vous vont commencer à vous regarder peut-être avec des yeux de poisson. Ils vont se demander, qu'est-ce que tu fais là? Il n'y a personne qui fait ça du bien comme ça autour de lui. Ben oui, il y a des gens qui font ça. Puis ces gens-là, c'est supposé être les chrétiens. Parce que si les chrétiens qui sont animés de l'Esprit de Dieu ne font pas ce bien-là, qui va le faire? Qui va le faire? Si Jésus-Christ dans notre vie n'occupe pas assez d'espace pour nous pousser à faire du bien, qui voulez-vous qu'il fasse du bien autour de nous? Et ça, ce n'est pas un fardeau. Ce n'est pas une question de rechercher puis de partir à la guerre aux bonnes actions là, puis de dire « Ah, où est-ce que je vais faire le bien? Où est-ce que je vais faire le bien? » Oui, d'une certaine manière, ce l'est, mais d'une certaine manière, c'est toujours inspiré par la grâce de Dieu. Ce n'est pas juste une question de « Ah, oh, je vais faire ça pour Dieu. » Oui, vous allez le faire pour Dieu, mais pas pour qu'il vous accepte parce que vous faites du bien. Vous faites du bien parce que vous êtes déjà accepté de lui. C'est ça la grâce de l'Évangile. Je ne fais pas les choses pour être accepté de Dieu. Je le fais parce que je suis déjà accepté de la part de Jésus-Christ et que tout ça, il l'a révélé à la croix. Ce que le livre des Proverbes nous dit également, c'est que aimer son prochain comme soi-même, ça requiert de la sensibilité et de l'intérêt sincère pour autrui. À plusieurs reprises dans le livre des Proverbes, on nous invite à regarder l'autre comme étant digne de notre intérêt, à ne pas tomber dans l'indifférence à son égard. Regardez les passages suivants qui sont tirés du livre des Proverbes, toujours dans la version français courant. Oublier un tort favorise l'amitié, mais en parler sans cesse la rend impossible. Une réponse donnée avec franchise est une vraie preuve d'amitié. Ne rends pas trop souvent visite à ton voisin, sinon il sera lassé de toi au point de t'haïr. Un fou qui lance autour de lui des tisons, des flèches, des projectiles meurtriers, tel est celui qui trompe autrui, et qui lui dit ensuite, « C'était pour rire, c'était une joke, comprenez-vous? » Ce que les passages ici, d'une certaine manière, nous disent, c'est, écoute, oui, je veux le bien. Je veux le bien, mais comment je vais y parvenir? Bien, c'est avec une disposition de cœur où est-ce que l'autre est digne de l'intérêt que je lui porte. Est-ce qu'on voit les gens autour de nous comme étant dignes d'un intérêt? Est-ce qu'on prend conscience dans notre vie que notre union par la foi à la personne de Jésus-Christ nous émerveille au point que cette union-là avec la personne de Jésus-Christ nous pousse à aller vers l'autre et à être un miroir de la grâce qu'on a reçue. Lorsqu'on médite sur la personne de Jésus, lorsqu'on s'approche d'elle, lorsqu'on s'approche du principe même de la sagesse, on devient des miroirs. On devient des miroirs qui s'intéressent aux gens, comme Jésus s'est intéressé à la femme samaritaine, comme il s'est intéressé aux lépreux, comme il s'est intéressé à la femme adultère. On est des miroirs qui portons intérêt à l'autre. Et ça, quand on reçoit Jésus-Christ par la foi, quand on croit qu'à la croix, il est mort pour nos fautes, il y a quelque chose de fabuleux qui arrive. Lorsque je dis que je suis indigne de Dieu, de son amour, de sa paix, de son pardon, mais que j'accepte que Jésus-Christ a payé ça pour moi, à la croix, il arrive quelque chose de fabuleux, c'est que Dieu, par la foi, me donne une nouvelle forme de vie. De mort que j'étais spirituellement, il fait de moi un être vivant. Il me scelle de son esprit, un esprit qui, la semaine passée, on a vu, ça nous donne la maîtrise de soi, mais là, on voit aujourd'hui que ça nous donne l'amour qui est capable d'aimer notre prochain comme on s'aime nous-mêmes. Et pour ça, ça l'exige de nous. Une grande responsabilité, c'est que je sois attentif à celui qui est à côté de moi. Que je le regarde comme quelqu'un de digne d'intérêt. Lorsque je suis uni par la foi à la personne de Jésus, mon travail sur terre maintenant, c'est de mettre l'effort nécessaire à ce que cette union avec Jésus, par la grâce de Dieu, soit rendue la plus vivante possible, la plus visuelle possible. Que le monde autour de moi soit émerveillé, non pas du bien que je suis capable de faire, mais du Dieu qui m'a racheté est capable de faire. Et quand je tombe dans cette dimension-là, mes amis, vous allez penser que vous vivez dans un rêve et que vous ne voulez plus vous réveiller. Parce qu'on a une joie de voir notre prochain comme étant une personne qui est digne d'intérêt. et quand vous allez faire ça. Quand on fait ça et quand vous avez déjà fait ça, je suis convaincu que vous avez déjà expérimenté le fait que vous vous sentez utile dans l'humanité. Dieu, tu te sers de moi. On rêve tous ici de construire un monde qui est différent. Moi, en tout cas, je le rêve, de construire un monde qui est différent. Mais Dieu peut construire un monde qui est différent. Il est capable de le faire. Il va le faire. La Bible nous le promet qu'un jour, toutes choses vont être différentes. Mais jamais ça ne passe par des gens qui sont indifférents. Si Dieu peut faire la différence, c'est par la nôtre. Notre différence, la différence de notre regard envers l'autre. Je vais vous parler d'un film. Vieux film. 1999. Ceux qui ont en bas de 30 ans, là, pour vous, peut-être, ça, c'est l'Antiquité, là, mais c'est pas grave. Le film s'appelle Le Grand Kauna. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui avaient déjà vu ce film-là. Je vous raconte rapidement l'histoire. C'est un trio d'hommes d'affaires, comprenez-vous, qui s'en vont à un congrès afin de pouvoir finaliser un gros contrat, un contrat qui va les rendre riches, très, très riches. Il n'y aura plus jamais de problème d'argent. Alors, arrivé au congrès, les trois hommes d'affaires cherchent le fameux client en question pour lui faire signer les contrats et ils n'arrivent pas à le trouver, le fameux client qui va les rendre si riches. Alors, au bout de 2-3 jours, à la fin du congrès, il y a deux des hommes d'affaires qui commencent à être inquiets. Et puis là, ils se disent, écoute, il est où le client? À un moment donné, est-ce qu'on va échapper cette occasion en or? Et là, le troisième homme d'affaires, il dit, écoutez les boys, c'est pas grave, là, écoutez, là, j'ai rencontré le fameux client au restaurant de l'hôtel là, ce midi. Là, et puis, écoutez, on a pris du temps pour discuter, puis faites-vous-en pas. Alors, les deux autres clients disent, ah, wow, c'est super, tu l'as rencontré, good, good, good. Écoute, de quoi vous avez parlé? Est-ce qu'il y a des contrats? Et là, l'autre gars de dire, ben, pas vraiment, là, on a parlé de Jésus. Moi, ça, de Jésus? On a un contrat en or, puis toi, tu y parles de Jésus? C'est quoi cette affaire-là? Dis, voyons donc, tu viens de manquer notre shot, là. Qu'est-ce qui se passe avec toi, là? Wake up, bonhomme, réveille. Et là, le gars dit, écoutez, c'est pas bien grave, là. Regardez, il m'a invité à un barbecue chez lui ce soir. Demain matin, venez me voir, on revient avec les contrats signés, c'est fini. Bon, fait que là, évidemment, la soirée se passe. Les deux hommes arrivent le lendemain matin, cognent à la chambre du troisième et se disent, bon, puis, est-ce que les contrats sont signés? Là, le troisième dit, ben, écoutez, les gars, dit, je suis désolé, là, mais on a parlé de Jésus toute la nuit. Il dit, les contrats ne sont pas signés, je suis désolé. Hey, là, un des deux gars d'affaires, furieux, pète une coche. Vraiment, il est furax, il veut le frapper, comprenez-vous. Là, il est en train de perdre le contrat qu'il veut le rendre millionnaire. Il est vraiment dans tous ses états. Alors, l'autre lui dit, écoute, là, calme-toi, là, c'est pas bien grave. Le gars, laisse-moi faire, là, je vais aller y parler. Alors, l'autre, il dit, écoute, je comprends que pour toi, Jésus, c'est quelque chose de vraiment important, qui a changé ta vie, puis que tu vas en parler à tout le monde. Mais moi, j'ai une question pour toi. Le fameux client à qui tu parles de Jésus, là, qu'est-ce que tu connais de lui? Est-ce que tu connais le nom de sa femme? Tu connais-tu le nom de ses enfants? Est-ce que tu connais le nom de son chien? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie quand il ne travaille pas, ce gars-là? Qu'est-ce qui le passionne? L'autre répond, ben écoute, j'en sais rien. Quand on se raconte, on fait juste parler de Jésus. Moi, je ne le connais pas, moi, lui. Il dit, ben c'est ça ton problème. C'est ça ton problème. Tu parles de Jésus comme si tu vends une salade, comme si tu avais un pitch à faire sur quelqu'un sans t'intéresser à la personne. Est-ce que Jésus vraiment agissait de cette manière-là? J'en doute fortement, parce que si Jésus a réagi comme ça, eh bien, on ne parlerait pas de lui encore 2000 ans après sa mort. Jésus, dans les évangiles, a profondément aimé, il s'est intéressé à la vie des gens, même s'il les connaissait par cœur. Même si Jésus, en tant que fils de Dieu, était omniscient et qu'il connaissait toute la vie des gens qu'il a rencontrés, il s'est intéressé aux gens par sa générosité, par sa bonté, par son message, par son œuvre. Et combien de fois dans ma vie j'ai parlé de Jésus sans m'intéresser et porter un regard d'intérêt à la personne à qui je parle. Tout ce que je voulais, Souvent dans ma vie, c'est une petite prière sur le coin d'une table, parfait, une âme de sauver. Bon, who's next? C'est qui là, le prochain? Là? Ça n'a pas de sens. Et vous savez, on est souvent reconnus pour ça, les chrétiens évangéliques. On parle de Jésus, souvent en oubliant que Jésus lui-même s'est intéressé à la personne. Le message de l'Évangile est un message extraordinaire. Et nous avons tout à faire pour mettre ce message de beauté incroyable dans un contexte d'intérêt pour l'autre. Oui, le Seigneur peut faire des miracles. Il peut sauver, même si on ne s'intéresse pas à la vie des gens. Juste en proclamant un message sur le coin de la rue, le Seigneur peut sauver. Et ceux qui ont un don pour ça, je dis « Amen, continuez à le faire ». Vous sentez que le Seigneur vous appelle à faire ça? Faites-le, continuez à le faire. Mais est-ce que l'un exclut l'autre? Mais non. Non. Jésus-Christ lui-même nous a fait du bien à la croix. Non seulement pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés, mais qu'on puisse s'intéresser aux gens comme lui-même s'est intéressé aux gens. Il a mis sa vie en nous, la vie que l'on reçoit à la croix, la vie spirituelle, la nouvelle vie, la nouvelle naissance, le fait d'être la nouvelle création de Dieu. Donnez-lui le nom que vous vouliez. Lorsque Dieu se réconcilie avec nous par le nom, la mort et la résurrection de Jésus, ce qui arrive, c'est qu'il te donne une nouvelle vie. Il te donne sa vie à lui. Il te donne sa manière à lui de voir les gens. Et maintenant, c'est à nous à développer un certain effort pour cultiver cette manière de regarder les gens-là et de demander à la grâce de Dieu, « Seigneur, donne-moi l'énergie, la force, l'humilité, la discipline de voir les gens comme toi-même tu les voyais. » C'est ça notre grand défi de foi. Quel est l'endroit cette semaine où nous allons pouvoir incarner cela? Est-ce que c'est avec ta femme, tes enfants, ton collègue de travail, peut-être ton patron qui est détestable à souhait? Ton père, ta mère. Autour de nous, il n'y a que des gens qui demandent à être troublés par le bien que nous lui faisons. Mais n'oublions jamais que le bien que l'on fait ne peut pas sauver une âme. Il vient un moment donné où est-ce que le bien ne suffit plus et qu'il faut être capable de parler de celui qui a fait pour nous ce bien, qui nous donne maintenant la manière de le faire envers les autres autour de nous. Jésus-Christ à la croix nous a fait le plus grand bien qui soit. Et si tu ne connais pas ce bien ce matin, si tu ne sais pas de quoi je parle lorsque je parle de la mort de Jésus, de sa résurrection, peut-être que depuis quelques semaines, tu te dis, écoute, il me semble qu'il y a quelque chose qui travaille dans mon cœur. Jésus, on dirait qu'il me parle, mais j'ai comme de la misère à aller vers lui, j'ai de la misère à lui faire confiance. Pourquoi? Jésus veut ton bien. Il ne t'aime pas parce que tu fais des bonnes choses pour lui, mais lui, il t'aime parce qu'il veut ton bien, non pas parce que tu fais des choses de bien. Jésus-Christ ne t'aimera jamais plus et jamais moins à force du bien que tu fais. Il t'aime, un point, c'est tout. Et qu'est-ce que tu vas faire avec cet amour? Est-ce que tu vas y être indifférent? Et que va-t-il créer dans ta vie? Dans nos vies? Ce bien, est-ce qu'il va porter du fruit? Est-ce qu'on va s'attacher au cep, au pain de vie qui nous permet de nourrir le bien que l'on peut faire aux gens qui sont autour de nous? Les occasions sont illimitées. On en manque, moi en tout cas, j'en manque tellement dans ma vie, des occasions de faire le bien. Heureusement pour moi, mon salut ne dépend pas de ça. Mais ma croissance spirituelle va être fonction du bien que Dieu va faire dans ma vie, qui va me permettre de faire du bien autour de moi. Les occasions vont se créer. J'aimerais simplement ce matin vous lancer l'invitation suivante. On va aller dans Galates. Galates, on va terminer là-dessus. Galates chapitre 6, versets 9 et 10. Voilà le défi auquel je nous invite cette semaine, pour la prochaine année, et même pour les années restantes de vos vies. Galates chapitre 6, verset 9 nous dit, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car si nous ne nous décourageons pas, nous aurons notre récolte au moment voulu. » On ne parle pas de salut ici, là. On parle simplement de la sagesse qui va venir à force de faire le bien dans nos relations les uns avec les autres et peut-être même des récompenses qu'on va recevoir au ciel. Verset 10. « Ainsi, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous et surtout à nos frères. » Et permettez-moi l'expression, j'ajouterai également « et nos sœurs » dans la foi. Faisons du bien à tous. Parce que Jésus-Christ est le plus grand bien que nous avons reçu. Il ne demande qu'à être diffusé autour de nous. Songeons à cela cette semaine, mes frères, mes sœurs. Qu'est-ce que Dieu m'invite à faire cette semaine de bien autour de moi? Non pas parce que je dois le faire, mais parce que je peux et je désire le faire. C'est dans mon cœur, c'est ancré là-dedans, et mon cœur est tellement rempli de l'amour de l'Esprit de Dieu qu'il ne peut que déborder autour de moi. Et si ça ne déborde pas, ben c'est que tu n'es pas assez connecté. C'est lui qui n'est pas assez connecté pour te donner cet amour qui ne demande qu'à remplir avec abondance le monde dans lequel on vit. On va se courber dans un moment de prière. Seigneur éternel, je te remercie ce matin pour ces passages dans le livre des Proverbes et dans l'Évangile de Matthieu qui nous démontrent à quel point tu es un Dieu aimant envers nous. Un amour qui s'est manifesté à la croix pour le pardon de nos fautes. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous accordes. Nous sommes à toi. Ça c'est réglé, ça c'est terminé, c'est fini, nous sommes tes enfants. Il n'y a plus personne qui peut nous enlever ce privilège-là. Maintenant, tu nous invites à vivre de ta sagesse dans nos relations avec les autres. Même quand c'est compliqué, Seigneur, mets en nous cet esprit, cette disposition de cœur à aimer notre prochain comme nous-mêmes, à lui vouloir du bien, à lui faire du bien et à le regarder comme étant digne du plus grand intérêt qui soit. Seigneur, change nos cœurs de pierre en cœurs de chair afin que nous pratiquions ce que ton évangile nous invite à construire comme modèle de vie. Tout cela à la gloire de ton nom. Non pas au nôtre, mais tout pour toi. Seigneur, on veut être audacieux, ambitieux dans notre amour, oui, envers le monde qui nous entoure et qui ne croit pas en toi, mais également, surtout, comme nous dit Galates, envers nos frères et nos sœurs, afin que le monde autour de nous puisse trouver grâce et qu'ils disent, « Wow, cette Église-là s'aime vraiment. » Je veux connaître cet amour qu'ils ont et que cela puisse les guider vers toi. Merci Jésus-Christ pour ce que tu nous accordes. Merci pour ce que tu nous donnes en tant que puissance, en tant que vie. On veut simplement s'incliner devant toi et te dire merci pour qui tu es et merci pour ce que tu as fait de nous.